Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la détermination des opposants à Alexandre Loukachenko, les relations Russie-Biélorussie décryptées de Moscou par Léo Vidal. Le balai des enquêteurs internationaux au Liban avec l'arrivée ce week-end d'une délégation du FBI, 11 jours après la double explosion du port, nous serons en ligne de Beyrouth. Les déplorables conditions de détention des manifestants arrêtés après le 29 juin dernier à Addis Abeba, l'assassinat du chanteur Oromo Achalou Hundessa. La pandémie, en France avec à Paris l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, sans respect des gestes barrières. Et dans le sud de l'Inde, les campagnes qui souffrent plus que les villes. Reportage à Bangalore de Combastin. Ils font lever de la victoire et agitent des bouquets de fleurs. Métro Pushkin à Minsk, là où lundi dernier un manifestant a trouvé la mort. Aujourd'hui, au centre de la capitale, hier dans les cours des usines de tracteurs MTZ, les détracteurs d'Alexandre Loukachenko, conformément à l'appel à manifester pacifiquement lancé hier par Svetlana Tikhanovskaya, ne désarment pas. En témoigne Kim Sabusienka, joint au téléphone à Minsk par Antoine Balandra.
Notre unique et simple exigence, c'est le départ de Loukachenko et que tous les responsables de la répression soient punis. Personnellement, je veux aussi des élections honnêtes. Mais aujourd'hui est arrivée une nouvelle pas très agréable, c'est que Loukachenko s'est entretenu avec Poutine pour que Poutine ou la Russie le soutiennent. Dans ce cas-là, nous espérons beaucoup une réaction de la communauté internationale, notamment de l'OTAN si les forces russes entraient en Biélorussie. Dans ce cas-là, nous résistons. Resteront bien sûr, mais ce ne seront plus des protestations pacifiques, mais une résistance à l'occupation. Et je ne suis pas convaincu que nous pourrons résister aux forces russes.
Au terme d'un échange téléphonique dont les deux exécutifs ont fait publicité, Alexandre Loukachenko a rejeté toute intervention étrangère. En effet, mercredi, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne avaient proposé un plan de médiation prévoyant la création d'un conseil national pour régler la crise politique en cours. L'autocrate biélorusse peut compter sur le soutien du Kremlin. Les relations n'ont pas toujours été apaisées, mais si le Kremlin veille à ne pas couper les ponts, c'est que les deux peuples ont en partage un héritage culturel et des intérêts communs. La Biélorussie peut s'avérer être en effet un intermédiaire utile à Vladimir Poutine. Léo Vidal nous appelle de Moscou.
Depuis dimanche dernier, Moscou observe Minsk de très près. Pour la Russie, les manifestations qui secouent la Biélorussie sont à la fois une opportunité et un réel danger. Opportunité parce que cela fait des années que Moscou pousse pour une intégration politique avec la Biélorussie, dans le cadre d'une organisation supranationale, l'Union Russie-Biélorussie, qui existe déjà, mais que Vladimir Poutine se verrait bien transformer en un véritable État. Mais dans les faits, au vu de l'asymétrie entre les deux pays, ce serait une annexion déguisée. Jusqu'à présent, Alexandre Loukachenko a toujours su éviter cette perspective en jouant habilement du rapprochement avec les Européens pour obtenir de la Russie des avantages économiques et politiques sans réellement céder de sa souveraineté. Mais si le président biélorusse se retrouve isolé au pouvoir, coupé des Occidentaux par la violence de sa répression, alors le Kremlin est gagnant. Pour rester au pouvoir, Loukachenko n'aura plus que le soutien russe et sera obligé d'accepter les conditions de Poutine. Mais il y a aussi un réel risque pour Moscou dans le mouvement sans précédent qui agite en ce moment la Biélorussie. Un régime autoritaire, renversé par son peuple, aux frontières russes. C'est la phobie des nationalistes russes. Le spectre des révolutions de couleur, du Maïdan, des termes qui sont en Russie complètement radioactifs, qui évoquent des machinations fantasmées des Occidentaux, du département d'État américain. On a déjà vu les commentateurs pro-Kremlin appeler dans les médias russes à une intervention directe de la Russie pour sauver Loukachenko. Pourtant, les opposants biélorusses ne sont ni pro-Russie ni pro-Occidentaux. Ce clivage n'existe pas en Biélorussie. Les Biélorusses sont à la fois très attachés à leur amitié avec la Russie, à la proximité culturelle et économique entre les deux pays, et très jaloux de leur indépendance. Une intervention russe sur le modèle de la Crimée en 2014 paraît peu probable, d'autant que d'après des sondages, la population russe est plutôt favorablement disposée envers les manifestants biélorusses.
Léo Vidal à Moscou cet après-midi, les États-Unis et la Pologne ont une fois de plus appelé le président biélorusse Alexandre Loukachenko à engager un dialogue avec la société civile. Elle avait déjà survécu à une précédente tentative d'assassinat en 2010. Fawzia Koufi, défenseur reconnu des droits des femmes afghanes, était blessée par balle aujourd'hui à Kaboul. Première femme vice-présidente du Parlement, elle fait partie de l'équipe de négociation qui doit mener prochainement des pourparlers avec les talibans. La correspondance du Pakistan voisin de Sonia Ghezali de RFI.
Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux, Fawzia Koufi apparaît les traits tirés, allongée dans un lit d'hôpital, le bras droit bandé. « Cette blessure n'est pas mortelle », écrit-elle sur son compte Facebook. Vendredi après-midi, elle est en visite dans une province voisine de Kaboul avec sa sœur. Les deux femmes en voiture s'arrêtent pour faire quelques achats dans un marché situé sur le bord de la route. Des hommes à bord d'un véhicule leur barrent alors le chemin et ouvrent le feu avant de prendre la fuite. Fawzia Kofi a survécu comme en 2010 lorsque des hommes armés lui ont tiré dessus près de la capitale afghane. La quadragénaire est connue en Afghanistan pour être l'une des plus ferventes critiques des talibans. Elle connaît bien le mouvement et son idéologie pour avoir vécu sous leur régime entre 1996 et 2001. Elle devient, après l'intervention des États-Unis en 2001, qui met fin au régime taliban, députée et plus tard première femme vice-présidente du Parlement, féministe et défenseuse des droits de l'homme. Si elle est connue pour sa verve contre les talibans, Fawzia Kofi confiait néanmoins depuis plusieurs mois croire aux négociations de paix. « Ils ont l'air d'avoir changé », disait-elle après une entrevue organisée à Moscou entre une délégation de politiciens et de membres de la société civile afghane et des représentants du mouvement taliban. Difficile de savoir qui se cache derrière cette attaque à quelques jours des négociations intra-afghanes à laquelle la députée, l'une des quatre femmes de la délégation, doit participer. Des combattants talibans, même si le mouvement a officiellement nié toute implication, des criminels, nombreux dans la province de Parwan où l'attaque a eu lieu, où les ressorts sont-ils d'ordre personnel? Une enquête est en cours, mais cette attaque ajoute au climat de peur qui règne dans le pays où la violence ne s'arrête pas.
Au Liban, au balai diplomatique d'hier et de ces derniers jours, il faut ajouter le nombre croissant d'enquêteurs qui convergent vers la capitale, ce qui heurte les autorités libanaises hostiles à une enquête internationale réclamée par de nombreuses voix au Liban, notamment les familles des victimes de la catastrophe, familles des victimes qui ont tenu une conférence de presse hier près du lieu du drame. Des experts de l'ONU ont également réclamé une enquête indépendante et rapide, inquiets de, je cite, l'impunité dont bénéficient, selon eux, les responsables libanais. Bonsoir Aurélien Colli.
Bonsoir.
En direct de Beyrouth, Aurélien, une équipe du FBI est également attendue ce week-end à Beyrouth.
Oui, le président Aoun avait refusé, vous le savez, toute enquête internationale en estimant que ce serait dessaisir la justice libanaise, mais il n'a pas écarté la participation d'experts internationaux, ce qui lui permet de calmer un peu la pression des pays occidentaux, des familles des victimes et les critiques des Libanais qui n'accordent aucune crédibilité à une enquête purement libanaise. Alors des experts français sont déjà sur place depuis plusieurs jours avec des effectifs de la police scientifique. Les Américains les rejoignent donc ce week-end. Le FBI va aider à déterminer ce qui a mené aux circonstances de l'explosion, a déclaré tout à l'heure le numéro 3 de la diplomatie américaine qui est à Beyrouth depuis 48 heures et qui multiplie les appels à des réformes, à un nouveau gouvernement qui réponde aux aspirations des Libanais descendus dans la rue. David Hales, qui s'en est aussi pris indirectement au Hezbollah, le parti chiite libanais proche de l'Iran, classé organisation terroriste par Washington et que l'administration Trump ne veut pas voir représenté dans un nouveau gouvernement libanais. Nous ne pouvons pas retourner en arrière à une époque où tout pouvait entrer au port ou passer par les frontières du Liban, a insisté le diplomate américain. Or, le Hezbollah est régulièrement accusé de contrebande avec la Syrie aux frontières et d'avoir ses entrées aussi dans le port de Beyrouth. Depuis l'explosion, certains Libanais le soupçonnent même d'y avoir entreposé des armes, ce que son chef Hassan Nasrallah a jusqu'à présent fermement démenti.
Merci à vous, Aurélien Colli, en direct de Beyrouth. Les violences liées à l'annonce de la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ont fait un mort de plus ce samedi à Daoukro, au centre du pays. Ce décès porte à 4 le nombre de personnes tuées dans des affrontements dans ce bastion de l'ancien président Henri Konan Bédier, également candidat à la présidentielle. Le 29 juin dernier, à Addis Abeba, le chanteur Achalou Hundessa, très populaire dans sa communauté oromo, était assassiné. Sa disparition a déclenché une vague de violence, la pire depuis l'arrivée au pouvoir en 2018 du premier ministre Abiy Ahmed. Achalou Hundessa incarnait le sentiment de marginalisation économique et politique de sa communauté, communauté dont est d'ailleurs issu Abiy Ahmed. Il s'ensuivit une vaste répression, des milliers d'arrestations selon les ONG. L'une d'entre elles, Human Rights Watch, dénonce 6 semaines plus tard des conditions de détention contraires aux droits fondamentaux. Margot Siffer a joint Laetitia Bader, directrice Afrique de Human Rights Watch.
C'est préoccupant. Alors bien sûr, il faut constamment rappeler que ces arrestations, alors on parle là surtout de dizaines d'arrestations de membres de l'opposition assez connus, mais le gouvernement a dit qu'ils ont arrêté environ 9000 personnes au cours du dernier mois. Et toutes ces arrestations ont lieu dans un contexte Covid. Il y a eu au moins 2 des détenus qui ont testé positif pour le Covid. Donc il y a bien sûr un côté de santé publique très préoccupant. Les centres de détention population en Éthiopie sont souvent très peuplées. Il y a eu des membres de l'opposition qui n'ont toujours pas eu accès à leur avocat, mais même quand il y a un accès, il y a toujours la police qui est présente au cours des discussions entre les avocats et les membres de l'opposition. Et d'un autre côté, on est quand même préoccupé par rapport aux faits, ce sont surtout les avocats qui ont soulevé cette question à maintes reprises. La police continue à demander de maintenir les individus en détention malgré le fait qu'ils n'ont pas de nouvelles preuves. Je pense que c'est une question importante. On est quand même dans un contexte où, avant l'incident avec Hachalu, le gouvernement avait déjà décidé que les élections n'auraient pas lieu tout de suite, en fait. Ceci avait déjà créé énormément de tensions. Il est absolument essentiel que le gouvernement entreprend des enquêtes dans les abus et les crimes qui ont eu lieu au cours du dernier mois. Je pense que, pour le moment, il faut juste espérer que les cours aient l'espace, la liberté, l'indépendance pour faire leur travail. Malheureusement, la police ne les écoute pas, mais on est quand même dans un contexte où, pendant longtemps, les cours n'ont jamais été indépendantes, et surtout pour les cas plus politiques, plus complexes, où il était très difficile pour des juges de vraiment faire leur travail indépendamment.
Laetitia Bader, directrice Afrique de Human Rights Watch. Il est 18h11, vous écoutez le journal de France Culture. Venons-en à la crise sanitaire due au coronavirus en France, à ses décisions prises par certains préfets, à ses recommandations émises par des instances sanitaires qui, les unes ajoutées aux autres, sécrètent inquiétude et incompréhension. La vitesse de circulation du virus semble être déterminante, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou à Paris où le port du masque a été rendu obligatoire ici et là. Bonsoir Pauline Joss.
Bonsoir Mathieu.
Pauline, à Paris, une autre décision pose question. Les rassemblements de plus de 10 personnes sans respect des gestes barrières sont désormais interdits.
Oui, pour faire face à la progression du nombre de contaminations à la Covid-19, la préfecture de Paris a décidé de scruter avec attention les rassemblements de plus de 10 personnes où le respect des gestes barrières pose question. Pour Anne Soury, adjointe à la mairie de Paris en charge de la santé, il s'agit avant tout d'arrêter net une dynamique de relâchement.
C'est quand même une question encore une fois de bon sens. On voit fleurir des invitations Facebook, de réseaux sociaux qui proposent des rassemblements de quelquefois plusieurs centaines de personnes dans Paris pour boire des verres, pour se réunir, bon, sans effectivement du tout plus aucun geste barrière puisqu'il n'y a pas de masque, les gens sont complètement collés. Oui, il faut absolument que ça n'existe plus.
Et pour que cela n'existe plus, le seuil a donc été fixé à 10 personnes. Selon le docteur Michael Rochois, médecin généraliste et cofondateur du collectif Stop Postillon, cette nouvelle interdiction est appropriée au regard de l'évolution de l'épidémie.
Globalement, on a une accélération du nombre de cas. On a la fin de l'été, la rentrée qui se prépare. Prendre des mesures efficaces quand on est au pic de la pandémie, c'est compliqué parce qu'on a plus de mal à freiner. Prendre des mesures de prévention en amont, c'est très important et c'est un moment où il faut frapper fort et donc essayer de casser la propagation du virus tout en permettant d'avoir une qualité de vie normale.
Forcément, ces mesures rappellent les souvenirs angoissants de mars dernier, mais pour Jocelyn Rode, psychologue social et spécialiste des comportements collectifs face aux risques, les Français ont une approche bien plus rationnelle de la maladie qu'au printemps dernier.
Je ne pense pas qu'on puisse à nouveau inquiéter la population dans les niveaux qui avaient été atteints début mars. On voit comment dans nos enquêtes, on a une baisse progressive de l'inquiétude liée au risque d'infection, même si encore aujourd'hui, une très grande majorité des Français, de l'ordre de 60 à 70% selon ce qu'on regarde, que ce sont les mesures barrières sur lesquelles on les interroge, eh bien, on a une très grande majorité des Français qui continuent à respecter scrupuleusement, en fait, ces mesures.
Même si la plupart des Français respectent donc les consignes sanitaires, le taux d'incidence de la maladie est en hausse à Paris, avec 51 nouveaux cas dépistés selon les dernières données sanitaires.
Merci à vous, Pauline Joss. Autre continent et enjeu d'une autre envergure. L'Inde a enregistré hier la plus forte hausse journalière de cas de coronavirus au monde. Si les grandes villes parviennent à contenir la pandémie, ce sont désormais les campagnes sous-équipées en lits et docteurs qui inquiètent les spécialistes. C'est un reportage à Bangalore de Combastin.
Face à l'explosion de la pandémie, le parc des expositions de Bangalore avait été transformé en gigantesque centre anti-Covid, mais de l'aveu même des autorités, il n'a jamais été rempli. Comme Delhi ou Bombay, la grande ville du Sud contient peu à peu l'épidémie. Directeur d'un hôpital de quartier, le docteur Stephen Anthony témoigne.
Non, Nous refusons beaucoup de patients en admission parce que la plupart ont juste besoin d'être placés en quarantaine. Désormais, notre hôpital arrive à gérer le Covid-19. À Bangalore, il y a désormais assez de lits et pour les patients les plus pauvres, le gouvernement prend en charge une partie des dépenses médicales.
Il y a un mois, la moitié des nouveaux cas journaliers détectés dans l'état du Karnataka provenaient de sa capitale Bangalore. Hier, trois quarts des cas déclarés provenaient des villages et villes moyennes. Selon Rijo John, économiste de la santé et consultant auprès de l'OMS, ce phénomène concerne toute l'Inde.
Les plus grandes villes ont été les premières à être dépassées par la pandémie, mais aujourd'hui, ce sont les campagnes indiennes qui voient le virus croître le plus rapidement. De plus, les capacités de tests sont déficientes en zone rurale, donc les chiffres pourraient être bien plus élevés.
L'Inde a enregistré hier 67 000 nouveaux cas, soit plus que les États-Unis ou le Brésil. Le déploiement de ressources médicales dans les villages sera le grand défi des mois à venir.
Comme Bastin, le temps de demain dimanche pour la France métropolitaine, orageux et agité sur une bonne partie du pays. 11 départements du centre-ouest placés en vigilance orange pour des orages assez forts. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Élise Leu.